franceinter.fr.
Bonsoir à tous. Les ors de Versailles pour Emmanuel Macron et les grands patrons Google, Alibaba, Rolls-Royce. Choisissez la France, leur dit le président avant Davos. Facebook va investir 10 millions d'euros dans l'intelligence artificielle. Google promet de former 10 000 personnes cette année. Toyota annonce 700 embauches d'ici 2020. Encore une réunion pour rien, place Vendôme. Nicole Belloubet revoit les gardiens de prison demain. Les blocages continuent. Au sommaire également ce soir, l'ambassade des États-Unis d'ici fin 2019 à Jérusalem. Carles Puigdemont en lice pour la présidence de la Catalogne depuis Bruxelles. Les débuts de Parcoursup, un projet d'installation de Jeff Koons qui ne plaît pas à tout le monde à Paris. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien au téléphone sonne, ce soir on met les pieds dans le plat Sébastien avec le débat qui n'est pas dans la loi bioéthique mais qu'on discute partout. La GPA, les mères porteuses, est-ce un commerce du corps des femmes? Est-ce un don de soi? Est-ce qu'on doit légaliser puisque ça existe? Pour débattre autour de vos questions, la sociologue Irène Théry et le professeur René Friedman.
On commence avec le mauvais point du jour. La France n'a pas tenu ses objectifs d'émissions de gaz à effet de serre l'an dernier. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
463 millions de tonnes émis en 2016, c'est 3,6% de plus que prévu. C'est surtout le retour du bâton aux donneurs de leçons.
Eh oui, trois secteurs sont concernés. Le transport avec des prix du pétrole bas qui ont favorisé la consommation. Le secteur énergétique avec des centrales nucléaires à l'arrêt qui ont nécessité le recours aux centrales thermiques. Et puis autre explication, les bâtiments avec une rénovation énergétique, c'est-à-dire la chasse au gaspillage, qui ne décolle pas. C'est le premier bilan de la stratégie nationale bas carbone. Elle comporte 184 indicateurs. C'est la feuille de route climat de la France, élaborée en 2015, l'année de la COP21, pour couvrir la période jusqu'en 2028. Elle est régulièrement révisée. Elle fixe les objectifs secteur par secteur et fait le suivi. Nicolas Hulot a à peine évoqué cette mauvaise performance de la France cet après-midi à l'occasion des vœux à la presse. Le ministre a dit que les émissions françaises étaient reparties à la hausse en 2016, mais sans donner de bilan chiffré. Ce mauvais résultat tombe mal alors que la France veut donner une image de championne du climat au monde. Il va falloir intensifier les réformes, promet Nicolas Hulot. En attendant, son ministère peut toujours rejeter la responsabilité de ce mauvais bilan 2016 sur le quinquennat précédent.
Le ministère de Nicolas Hulot qui appelle ce soir, merci Sandy, à une réaction, on ne saurait mieux dire.
La France, Sébastien, est the place to be.
Et pour convaincre les grands patrons que c'est l'endroit où il faut être et surtout où il faut investir, Emmanuel Macron sort toute l'argenterie, le château de Versailles comme cadre pour les leaders de Google, Facebook ou Coca. Une centaine au total sur la route de Davos qui débute demain. Déjeuner avec le Premier ministre, discours en anglais du président ce soir, sans compter des rendez-vous avec 15 ministres, les conférences de Cédric Villani et Tanguy Estanguet et un dîner signé Ducasse dans la galerie des batailles. Bref, l'Élysée met le paquet et espère en retour des investissements. On va y venir. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Tout cela sans micro ni caméra, au risque de nouvelles critiques sur le président des riches.
Oui, pas de presse, aucune accréditation de délivrée pour l'événement. Étonnant au vu du décorum, de la mise en scène, des petits plats mis dans les grands ce soir. Versailles, ses dorures, sa galerie des batailles ouverte aux géants de l'économie mondiale, de Rolls-Royce à Coca-Cola, en passant par Siemens ou encore Goldman Sachs, 140 chefs d'entreprise en tout, réunis sous un même toit, dans un même château, ça méritait la photo. Eh bien non, l'Élysée a tenu à laisser à l'écart les caméras officiellement pour une parole plus libre, explique-t-on, du côté de la présidence.
Voilà pour le contexte sur le front, Maxime. L'attractivité souhaitée a ses premiers effets, et notamment sur Google.
Oui, le célèbre moteur de recherche dont le PDG Sundar Pichai n'est pas venu les mains vides. Google va embaucher 300 cadres chez nous d'ici la fin de l'année, mais aussi ouvrir, c'est nouveau, des espaces physiques en France, 4 en tout, qui seront déployés sur le territoire, des espaces de formation gratuits au numérique, dont le premier ouvrira ses portes à Rennes dans les prochaines semaines. Objectif pour Google, former 100 000 personnes d'ici la fin de l'année, leur permettre de refaire leur retard en matière de nouvelles technologies. Le géant du web qui va par ailleurs ouvrir un centre de recherche en intelligence artificielle en France et tenter d'y associer des organismes comme le CNRS. Une annonce qui fait écho à Facebook, autre géant du net invité ce soir qui va lui aussi investir, on l'a appris ce matin, 10 millions d'euros supplémentaires dans un projet similaire.
Le géant allemand du logiciel SAP annonce aussi son intention d'investir plus de 2 milliards d'euros sur 5 ans en faveur de l'innovation en France. Merci Maxime. Il ouvrira à SAP notamment son deuxième incubateur en Europe. Et puis, comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, Toyota annonce aussi de nouveaux investissements dans son usine d'Onin dans le Nord, où Emmanuel Macron s'est déplacé pour l'occasion. 300 millions d'euros, 300 emplois en CDI, 400 de plus d'ici 2 ans. Le chef de l'État sera au sommet de Davos en Suisse mercredi. Emmanuel Macron qui donne le calendrier de la réforme des retraites, ce que la ministre des Solidarités Agnès Buzyn n'avait pas voulu faire jusqu'ici. Il souhaite qu'elle soit finalisée avant l'été 2019.
Les prisons seront encore bloquées demain.
En tout cas, les syndicats de gardiens appellent à poursuivre les blocages après 8 jours de mobilisation et le rendez-vous de cet après-midi au ministère de la Justice. Sarah Guibaudeau, Nicole Belloubet revoient les gardiens demain. La rencontre d'aujourd'hui n'a rien donné.
Ce que la ministre a mis sur la table cet après-midi, c'est la promesse de discuter aussi des rémunérations. Samedi, un premier relevé de décision qui portait sur la sécurité et les recrutements, 1100 nouveaux postes en 4 ans. Ces premières propositions ont été rejetées par les surveillants de prison, que Nicole Belloubet souhaite pourtant voir reprendre le travail.
Je n'espère pas qu'ils reprennent le travail par miracle. Je mets dans le pot commun un principe d'acceptation d'éléments sur indemnitaires. Nous allons nous retrouver dès demain.
Les 3 syndicats représentatifs, UFAP, UNSA, FO et CGT, sont sortis déçus. Et à l'instar de Christopher d'Orangeville pour la CGT, ils appellent même à durcir le mouvement demain.
Elle est ouverte à des discussions, mais à côté de ça, on n'a aucune réponse concrète. Aucune enveloppe de défini, aucune information supplémentaire que celle qu'on avait déjà depuis vendredi. Donc on est clairement déçus par les annonces de la ministre. Et nous appelons demain, d'ores et déjà, à continuer le mouvement sur les établissements en durcissant les modalités.
Seule force ouvrière à chiffrer ses revendications en termes de rémunération, 200 millions d'euros. Cela me semble très élevé, a dit la garde des Sceaux. La CGT et FO se demandent ouvertement si Nicole Belloubet reste le bon interlocuteur. Place Vendôme à Paris, devant le ministère de la Justice. Yvan Turc, Sarah Guibaudeau, France Inter.
Les Corses sont à Paris. Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni reçus à Matignon 1 mois et demi après leur victoire aux élections territoriales et un peu plus de 2 semaines après la visite de la Madame Corse du gouvernement Jacqueline Gourault sur l'île. Jean-Claude Gaudin confirme qu'il ne sera pas candidat à un 5e mandat à la tête de Marseille. Le maire Les Républicains de la seconde ville de France ne soutiendra pas le patron de La République En Marche, Christophe Castaner, pour lui succéder en 2020. Mais le candidat, dit-il, de la liste de ses amis. Laurence Rossignol, candidate à la présidence du groupe socialiste du Sénat, la sénatrice de l'Oise, propose une coprésidence paritaire. Elle était déjà candidate en septembre quand Didier Guillaume, qui vient de démissionner, a été élu.
Il est 19h, presque 8, sur France Inter. Le vice-président des États-Unis honoré d'être à Jérusalem, capitale d'Israël.
Mike Pence est sur place dans la foulée de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale par Donald Trump. Et il donne une échéance pour l'ouverture de l'ambassade américaine. C'était ce matin devant le Parlement israélien.
D'ici quelques semaines, notre administration présentera son plan pour ouvrir l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et cette ambassade des États-Unis ouvrira avant la fin de l'année prochaine. Notre président a fait connaître sa décision dans l'intérêt des États-Unis, mais il a aussi fait savoir que nous pensons que cette décision est dans l'intérêt de la paix. En reconnaissant enfin Jérusalem comme la capitale d'Israël, les États-Unis ont choisi les faits et non la fiction. Et aujourd'hui, nous demandons à la direction palestinienne de revenir rapidement à la table. La paix ne peut venir que par le dialogue.
Mike Pence qui promet aussi que Washington ne permettra jamais à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Les dirigeants palestiniens boycottent sa visite et voient dans son discours un cadeau aux extrémistes. Le président Mahmoud Abbas appelle les 28 à reconnaître rapidement la Palestine comme État indépendant. Le Sénat américain adopte une loi qui assure le financement à court terme du gouvernement fédéral jusqu'au 8 février. Elle met fin de cette loi au shutdown qui était entré dans son 3e jour. Il affirme qu'il formera un gouvernement malgré son exil et les menaces de Madrid. Carles Puigdemont, le président déchu de la Catalogne, il était à un colloque à Copenhague aujourd'hui. Bonsoir Mathieu de Taillac.
Bonsoir.
Et il assure qu'il sera candidat à la présidence, même à distance.
Oui, car Carlos Puigdemont a dit vouloir former rapidement un gouvernement malgré ce qu'il appelle les menaces de Madrid. Alors ces menaces sont d'abord judiciaires et le président catalan déchu a échappé aujourd'hui au risque de se faire arrêter au Danemark. À moins que cette arrestation ne soit précisément ce que recherchait Puigdemont, c'est en tout cas ce que croit le juge. La Cour suprême espagnole, en effet, avait l'occasion d'émettre un nouveau mandat d'arrêt européen pour que les tribunaux danois lui remettent Puigdemont. Le parquet espagnol avait réclamé ce mandat, mais c'est le juge qui a le dernier mot. Il a refusé cette possibilité avec un argument assez spéculatif. Si Puigdemont se rend au Danemark, indiquait le magistrat, c'est parce qu'il veut forcer son arrestation dans un pays étranger. Ainsi, il aurait une excuse pour ne pas participer physiquement à la session d'investiture du président du gouvernement régional au Parlement catalan, c'est prévu d'ici 10 jours. Il pourrait alors réclamer de voter par procuration, voire de se présenter à distance à l'investiture. Bref, le juge a vu une manœuvre à laquelle il n'a pas voulu céder. Résultat des courses, on en est au même point. Si Puigdemont rentre en Espagne, il sera arrêté. S'il reste à l'étranger, il sera libre. Mais sa session d'investiture à distance sera suspendue par la Cour constitutionnelle.
Mathieu de Taillac pour ces précisions. Merci en direct de Madrid. Federica Mogherini extrêmement inquiète de l'offensive turque à la frontière syrienne. La chef de la diplomatie européenne estime que l'opération militaire sape la reprise des négociations de paix entre le régime de Bachar el-Assad et l'opposition. Ankara promet qu'elle sera courte, cette offensive. Les combats dans l'enclave d'Afrin ont fait au moins 54 victimes en 3 jours. Des combattants kurdes et des rebelles syriens pro-turcs, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le pape présente ses excuses aux victimes d'abus sexuels après le tollé provoqué au Chili par son soutien à un évêque controversé. Faute de preuves, avait dit François, il reconnaît que le mot a pu blesser dans l'avion du retour.
Adieu APB et bonjour Parcoursup.
Oui, les futurs bacheliers peuvent faire leurs vœux pour l'an prochain à l'université. Cité sur la nouvelle plateforme depuis ce matin. Parcoursup, censé mieux répondre aux souhaits des lycéens qui ne sont plus soumis au tirage au sort dans certaines filières, comme les formations sportives. Premières inscriptions au lycée Stéphane Hessel de Toulouse avec Frédéric Bourgade.
Avant d'arriver aux vœux proprement dit, il faut tout lire, car dans la plateforme, on s'informe autant qu'on choisit illustration.
Là, je termine mon inscription.
Donc là, on te propose, si tu cherches un DUT, une licence, un BTS.
Ouais, par exemple, oui.
Les formations, les caractéristiques de la formation, l'examen du dossier, des éléments statistiques sur la réussite et les débouchés.
Désormais, les vœux ne sont plus hiérarchisés, ce qui pour Maël, candidat à un DUT génie mécanique, est plutôt une bonne chose.
Ça nous donne un peu plus de champ de manœuvre sur le choix qu'on va faire à la fin.
Car au final, il faudra en faire un, avec parfois des mises à niveau obligatoires pour espérer une place dans la filière de son choix. Ce que les universités appellent des attendus. Régine Andrès-Auberger, vice-présidente de l'université Paul Sabatier.
Les attendus, c'est dire qu'est-ce qu'il vous faut au minimum pour avoir toutes les chances de réussir. Sachant que ça va mettre des dispositifs qui vont permettre aux futurs étudiants de construire si vraiment il est motivé pour faire quelque chose.
Les syndicats étudiants y voient au contraire une sélection déguisée. Et ils redoutent aussi la fiche à venir qui donne au professeur principal un pouvoir, ce que réfute Joël Mention qui enseigne au lycée Stéphane Hessel.
On a toujours eu quelque part à donner un avis et nous avons des matières, par exemple moi en sciences de l'ingénieur, qui permettent d'apprécier les capacités de l'élève.
Les futurs bacheliers ont désormais 2 mois pour émettre 10 vœux sur Parcoursup. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Inter.
5 ans qu'elle était coupée à la circulation, bloquée par des épaves de voitures, des pneus de toutes sortes, de barricades qui lui avaient valu le surnom de route des chicanes. La départementale 281 est en cours de nettoyage depuis ce matin qui coupe la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en deux du nord au sud. 400 personnes participent aux opérations qui devraient se poursuivre demain. Maintien ou éviction, le PDG de Radio France sera fixé sur son sort le 31 janvier. Mathieu Gallet sera entendu par le CSA 2 jours plus tôt, lundi prochain. Après sa condamnation à 1 an de prison avec sursis pour favoritisme quand il était à la tête de l'INA.
Voici maintenant un test sanguin pour détecter le cancer.
Ce sont des chercheurs de l'université de Baltimore aux États-Unis qui viennent de publier leurs travaux dans la revue Science. Leur prise de sang a permis de détecter les 8 cancers les plus fréquents dans 70% des cas en moyenne. Mais quand la maladie est déjà là, Véronique Julia, ce n'est pas un test pour détecter le cancer avant les symptômes.
Dans cette étude américaine, les chercheurs ont testé plus de 1000 patients atteints de 8 cancers parmi les plus courants, ovaire, foie, œsophage, poumon, côlon, sein, estomac et pancréas. Leur cancer était à un stade localisé, pas encore métastasé. Par une simple prise de sang, le test baptisé CancerSeek a permis de détecter 98% des cancers des ovaires ou du foie, 60 à 70% des cancers digestifs et 33% des cancers du sein. Ce test repose sur la recherche simultanée dans le sang de protéines et d'ADN mutés cité signalant la présence d'un cancer. À partir de là, question évidemment, pourra-t-on dans un avenir proche détecter des cancers à des stades précoces avant même l'apparition des symptômes? Réponse un peu en forme de douche froide pour l'instant du professeur Jean-Yves Pierga. Il est oncologue à l'Institut Curie.
Malheureusement, on n'en est pas encore là parce qu'ils ont réussi à détecter ces cancers, mais chez des gens qui en avaient déjà un, qui étaient connus. Et par contre, sur un aspect dépistage chez des gens où on ne sait pas s'ils ont un cancer, ça, on est loin d'avoir démontré que c'était faisable. On a déjà fait beaucoup d'essais avec, par exemple, pour essayer de dépister le cancer de l'ovaire, on n'y est pas arrivé de façon fiable. Un petit fragment d'ADN avec la mutation qu'on recherche, s'il y a très peu de tumeurs, il va être noyé dans plein d'ADN normal. Donc, il faut vraiment avoir une technique très, très sensible pour y arriver.
L'enjeu, en tout cas, est énorme, car dépister au plus tôt permettrait de guérir plus de cancers, notamment les cancers du pancréas ou des ovaires, qu'on découvre souvent à des stades très avancés.
Des risques d'inondation et de crues avec les fortes pluies. Le Doubs et le Jura sont en vigilance rouge. Le Rhin pourrait sortir de son lit demain. La Seine déborde à Paris. À Chamonix, on évacue une centaine de chalets à cause des risques d'avalanche. Toutes les prévisions météo à la fin du journal avec Élodie Calac.
Il vient d'être rappelé et il est déjà forfait.
Le demi de mêlée Morgan Parra, qui n'a plus joué avec le 15 de France depuis plus de 2 ans. Le Clermontois s'est blessé au genou samedi et il déclare forfait pour le premier match du tournoi des Six Nations contre l'Irlande. Il est remplacé par Baptiste Serre. Et Guilhem Guirado est lui confirmé capitaine. Le retour à la compétition était peut-être prématuré pour Novak Djokovic après 6 mois d'arrêt pour une blessure au coude. L'ex numéro 1 mondial, 6 fois vainqueur de l'Open d'Australie, quitte le tournoi en 8e de finale, battu en 3-7 par le sud-coréen Chung, 58e mondial. Sa carrière de sportif à lui, c'est du passé. Depuis 15 ans, George Weah, ancien attaquant vedette du PSG et du Milan AC, l'ex-légende du foot est désormais président du Liberia. Il a prêté serment aujourd'hui à Monrovia. Envoyé spécial Cécilia Arbona et Gilles Gallinaro.
The President of the Republic of Liberia, His Excellency, Mr. George Mana Weah.
Face à 35 000 personnes en liesse et devant un parterre de chefs d'État africains venus de Côte d'Ivoire, du Gabon, de Sierra Leone ou du Mali, George Weah, vêtu d'une tunique en satin blanc qui lui descendait jusqu'aux chevilles, s'est adressé au premier adversaire qu'il veut voir tomber. Il faut arrêter de faire passer ses intérêts personnels avant ceux des autres. La corruption n'est pas une excuse pour prendre à d'autres ce qui ne nous appartient pas. Trop de gens ont vécu avec la corruption comme seule règle. Il est temps que ça cesse. Pour aider son pays à se développer, le nouveau président du Liberia veut séduire les investisseurs étrangers. Il a listé les partenaires avec lesquels il souhaiterait travailler, les États-Unis d'Amérique, la Chine et l'Union européenne. George Weah se porte garant de conclure des marchés honnêtes et transparents. Monrovia, Gilles Gallinaro, Cécilia Arbona, France Inter.
On termine avec une œuvre d'art qui ne fait pas l'unanimité, un cadeau que veut faire l'artiste américain Jeff Koons à la ville de Paris. Une œuvre d'une dizaine de mètres de haut qui serait installée devant le musée d'art moderne et le palais de Tokyo. Plusieurs personnalités de la culture sont contre dans une tribune publiée aujourd'hui par Libération, dont Christian Boltanski ou le cinéaste Olivier Assayas. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir.
Avant de nous dire ce qu'il lui reproche à cette œuvre, décrivez-nous à quoi elle ressemble.
Alors c'est un bouquet un peu embarrassant, vous l'avez dit, 12 mètres de haut, 33 tonnes en bronze et en aluminium, un bouquet de tulipes aux couleurs flashy, tenu par une gigantesque main hyper réaliste. Bref, c'est du pur Jeff Koons, kitsch et tape à l'œil. Mais la polémique ne porte pas sur l'esthétique de l'œuvre. Première critique, l'emplacement et la récupération marketing. L'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, signataire de la pétition, est très choqué.
Je pense qu'il y a quelque chose de cynique dans cette opération qui me gêne énormément. Si on veut absolument honorer les victimes des attentats ou de Charlie Hebdo, eh bien il faut créer un monument là où ils ont été martyrisés. Et non pas entre deux musées d'art moderne d'une très grande valeur, mais qui évoquent immédiatement l'idée du marché de l'art.
Des propos appuyés par Stéphane Coréard, le directeur du Salon Galeriste.
En été, c'est une publicité, et une publicité même pas pour un artiste, mais pour une marque, puisque Jeff Koons aujourd'hui, c'est une marque d'hyperluxe qui fait des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Et cette publicité, il ne va même pas la payer, c'est nous qui allons la payer à travers nos impôts. Donc c'est vraiment scandaleux.
Car le cadeau de Jeff Koons, cadeau entre guillemets, n'est pas gratuit. Le mécénat qui va financer les 3,5 millions d'euros pour sa réalisation bénéficiera d'un abattement fiscal, un manque à gagner pour l'État. Reste aussi de gros problèmes techniques. Pour supporter les 33 tonnes, eh bien il faut faudra renforcer la dalle. La ministre de la Culture a demandé des études complémentaires à la mairie de Paris, c'est assez étonnant. Anne Hidalgo semble toujours tenir au bouquet, alors que son adjoint à la culture, Bruno Julliard, m'a clairement écrit cet après-midi sur un SMS qu'il s'y oppose. Bref, au-delà du kitsch, Jeff Koons a inventé les tulipes avec épines.
Ça fait débat, merci Isabelle Pasquier. On nous dit que ce bouquet de tulipes géants serait en cours de réalisation dans une usine en Allemagne. D'après les signataires de la Tribune, on verra s'il sera installé ou pas.
Merci beaucoup Sébastien Paur. Vous revenez demain bien sûr. La suite du 18-20, c'est le téléphone sonne. On parle GPA ce soir, gestation pour autrui, mère porteuse. Donc théoriquement, la question n'est pas au programme de la révision de la loi bioéthique, mais c'est un peu l'éléphant dans la pièce, comme disent les Américains, qui eux pour le coup pratiquent la GPA. Et c'est le sujet dont tout le monde parle. Nous aussi, ce soir, avec la sociologue Irène Théry et avec le professeur René Friedman. La météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Elodie Calac, on regarde encore le niveau de l'eau. Hein. Attention aux crues et aux inondations.
Oui, des crues quasi généralisées sur le nord, l'est du pays, vers le sud-ouest également. Le Doubs et le Jura sont en vigilance rouge pour la crue de la Loue. Soyez très prudents lors de vos déplacements notamment. Encore de fortes pluies ce soir entre le Jura et le nord des Alpes. Et puis un risque d'avalanche très fort pour Isère, Savoie, Haute-Savoie. Ça s'arrangera. Demain, on retrouvera du soleil dans les Alpes, mais le risque d'avalanche restera fort. Un temps sec et des éclaircies aussi pour le Jura. Et puis du soleil aussi autour de la Méditerranée et sur les Pyrénées.
Et sinon, ailleurs, des nuages et encore nombreux.
Oui, de petites pluies même sur le nord-ouest jusqu'au nord-Pas-de-Calais le matin et puis de la Bretagne vers le nord de la Seine l'après-midi. Le matin, ce sera moins doux que ce matin, mais encore clément, 4 à 11 degrés attendus. L'après-midi, 9 degrés à Metz et Rodez, 11 degrés à Grenoble, 12 à Lille, Paris, Poitiers, 14 du côté de Rennes, Bordeaux ou Toulouse, 16 à Marseille et on ira jusqu'à 19 à Narbonne.
Élodie Calac sur France Inter, merci.